Donc, j'ai dit que j'allais vous parler de Noël. Alors, on prend l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 1er. Luc, chapitre 2. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonna un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Je me mets à leur place, moi. Waouh ! Dans l'obscurité, habitué à ces veilles de la nuit, et tout d'un coup, une lumière éclatante, c'était... Ouf. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Nous approchons de Noël. J'en parlais tout à l'heure, mais chacun va faire son arbre de Noël. Non, il y en a qui disent non. Bon, c'est personnel, hein ? Ou sa crèche. Hein ? Oui. Ça va être un temps de festivité, de retrouvailles avec la famille, les amis, etc., etc. C'est aussi un temps où, eh bien, on fait quelque part un bilan de sa vie. Une année est en train de s'écouler, une nouvelle est en train de se profiler à l'horizon, et puis on aimerait comme cela, eh bien, qu'elle soit meilleure que celle qui prend fin. Parce qu'on a eu des galères, hein. On a eu des temps difficiles, on a eu des réjouissances, mais il y a eu aussi beaucoup de peine. On a tremblé à des moments. On a eu peur. Eh oui. Alors, avec cette perspective, on réfléchit à ce qui a marché, à ce qui est allé de travers, qui a moins bien marché, bien sûr. On réfléchit sur soi-même, sur les autres, et on constate que bien des choses nous échappent. On contrôle pas tout. Alors qu'on aimerait tout contrôler. Eh bien sûr, hein. Alors, on croyait savoir, on croyait se connaître, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a en nous, eh bien, de grandes carences dans la connaissance de l'être humain. Je croyais le connaître, puis il m'a fait de ses tours. J'avais confiance, il m'a trahi. Alors oui, c'est vrai. En fait, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, et dans le livre de la Genèse, nous trouvons cette parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors les différentes traductions que j'ai pu consulter, et j'en ai consulté quelques-unes, eh bien, ils disent toutes, faisons. Dieu ne dit pas, je vais faire, mais faisons l'homme à notre image. Alors pourquoi le verbe « faire » est-il au pluriel ? La réponse, eh bien, c'est que c'est à cause de la Trinité divine. Père, Fils, Saint-Esprit. Des fois, je m'amuse, moi, quand Marie-Paul m'appelle. Il dit « Oui, nous arrivons, Bernard et moi. » Mais là, c'est pas pareil. Père, Dieu de la création. Le Fils, alléluia, la révélation du Père ici-bas. Le Saint-Esprit, celui qui nous convainc. Celui qui permet que nous soyons éclairés, qui nous donne l'intelligence. Alors nous sommes aussi, nous-mêmes, une trinité humaine. Eh oui, corps, âme, esprit. Notre corps est du domaine du matériel. Notre âme concerne le domaine de l'intelligence, la vie affective, la vie sociale. C'est le siège de nos sentiments et de nos désirs. Et notre esprit, ben lui, touche à la vie spirituelle. Il touche à la foi Il touche à l'amour de Dieu. Le corps est temporel. C'est notre habitation ici-bas pour un temps. Ensuite, nous serons et nous revêtirons encore nouveau et nous serons auprès du Seigneur. Alors, il est fait de poussière, il retournera à la poussière, mais l'âme et l'esprit, eh bien, eux, ils sont à l'image de Dieu, ils sont éternels comme Dieu est éternel. Amen. Qu'est-ce que la vie ? Eh bien, cela touche à plusieurs domaines de l'être humain que nous sommes. Il y a la vie physique, la vie affective, la vie intellectuelle, la vie sociale, il y a la vie spirituelle, il y a la vraie vie. Et je vais en parler. Alors la vie physique, eh bien, avec ses besoins et ses satisfactions physiques, on parle ici de la faim, de la soif, tout ce qui, quelque part, satisfait le corps humain. Vous avez des besoins. Et on a tous des besoins. On a été fait ainsi. Eh oui. Il y a la vie affective, intellectuelle, sociale, avec ses besoins d'être aimé et d'aimer. Vous voyez ? On ne peut pas vivre sans être aimé et sans aimer. Mais aussi de connaître, d'emmagasiner un savoir, une connaissance, mais aussi d'avoir des relations, de pouvoir comme cela partager, communiquer, de faire des échanges. Ah, c'est enrichissant. C'est beau. Amen. Partager. Il y a aussi la vie spirituelle, avec ses besoins. Là, tout autre. On élève un peu le niveau. Et ses besoins de relation avec Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, le Consolateur. On a besoin de ces moments de partage entre nous. Amen. On a besoin de cela. La vraie vie, finalement, eh bien, c'est la plénitude de la vie vécue dans ces trois dimensions que sont le physique, l'affectif et le spirituel. Une vie, la vraie vie. Amen. Quand on est chrétien, on n'est pas détaché du réel. Hein ? Moi, quand je me suis converti, j'avais l'impression, puisque j'étais dans une bulle, on me l'a dit, sors de ta bulle. On va la percer, cette bulle. Redescends un peu vers nous. Et oui, mais j'étais tellement bien. Ça, vous rappelez, monsieur Tournesol, là, professeur Tournesol ? Et oui, hop, on mange, j'étais léger. Et oui, plus le pouvoir des le poids des péchés, etc. On est bien, on est bien. Mais il faut sortir et il y a le réel aussi, hein, bien sûr. Alors, Jésus, le Fils de Dieu, dit lui-même, Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance » ou « dans l'abondance » ou « qu'elles soient dans l'abondance ». Jésus parle ici de la plénitude d'une vie remplie, qui déborde, une vie qui est comblée. Et le mot « abondance » nous parle de la richesse que le Seigneur nous donne par sa présence. Amen. Christ est en moi, je suis plus riche. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Les autres sont des mendiants. Un petit peu d'amour, un petit peu de bonheur. Moi, je l'ai. Alléluia. Vous aussi, hein, parce que vous appartenez au Seigneur aussi. Ailleurs, il dit être justement le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. L'apôtre Paul, cet homme qui a été touché par la grâce de Dieu, va dire ceci, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Oh, est-ce qu'il a perdu la raison, là, l'apôtre Paul ? Non, pas du tout. Parlant ainsi, Paul montre que pour lui, une existence sans Christ dans sa vie et sans Dieu, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a et il y aura toujours un grand vide qui aura bien sûr la forme de Dieu. Tant qu'on n'a pas mis Dieu à sa place, on pourra essayer de combler ce vide. Par des activités, par des bonheurs éphémères, par toutes sortes de choses. Mais il a la forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Il manquera toujours quelque chose. Ce qui fait qu'il y aura constamment une insatisfaction, un mal-être qui sera là On ne peut pas le dessiner, on ne peut pas le, quelque part, en parlant, expliquer ce que c'est, mais c'est diffus, c'est là, il manque quelque chose, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que la mort ? L'avertissement de la mort fut donné à Adam. Dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit ceci, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, et j'ai pris la version français courant. Je ne sais pas si tu l'avais trouvé. C'est bon. Adam, tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donne un éclairage, hein, la français courant à ce niveau-là. Satan, celui qu'on appelle l'ennemi de nos âmes, ou l'accusateur des frères, hein, celui qui veut notre perte, qui veut tout simplement que les hommes vivent sans relation avec Dieu, eh bien, il va jouer sur la signification du mot « mort ». Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Est-ce qu'il a bluffé, là ? Est-ce qu'il a menti ? Ou est-ce qu'il a dit la vérité ? Vous connaissez la suite, non ? Vous lisez la parole de Dieu. Hein ? Que s'est-il passé en réalité le jour où Adam a péché ? Il nous est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 23 et 24, « L'Éternel, Dieu, le chassa d'Éden, c'est ainsi qu'il chassa Adam. » Tiens donc, il ne devait pas mourir Adam ? Eh oui, il devait mourir, mais il n'est pas mort. Alors il y a en réalité une séparation entre Dieu et Adam, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une mort spirituelle. Ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Et la mort n'est pas une fin, mais une séparation d'avec Dieu, celui qui nous a créés justement à sa ressemblance pour avoir une relation avec lui. Amen. En fait, comme nous sommes une trinité humaine, eh bien la mort a trois aspects. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et il y a la mort éternelle, appelée aussi la seconde mort. Jésus dira, Jean chapitre 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Dit autrement, il est passé de la mort spirituelle à la vie avec Christ, à la vraie vie. Amen. Dans sa lettre adressée aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 2, verset 1er, Paul leur dit, « Vous étiez morts par vos offenses. » Je saute, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Je paraphrase, hein. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous qui étions morts, nous a rendus à la vie avec Christ. » On était morts déjà. Depuis que nos premiers parents ont désobéi, ont péché, la mort règne. David lui-même le dira, j'ai été enfanté dans le péché, dans l'iniquité. Je suis pour rien. Et tous nous pouvons dire pareil. J'ai rien demandé. Comme m'a dit une jeune fille également dans une réunion de jeunesse, elle m'a dit, moi j'ai rien demandé. Et je suis là. Et je souffre. Et j'ai mal. Et oui, j'ai rien demandé. Bien sûr. Et ça, c'est le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève. Nous la supportons encore aujourd'hui. Nous étions morts. Mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Et la Bible, en français courant, traduit le verset premier ainsi. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Et le verset 5 est traduit ainsi. Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a fait revivre avec Jésus ou en Jésus. Donc la mort physique, c'est la séparation de notre corps et de notre âme. Le premier retourne à la poussière, hein, le corps retournera à la poussière. Et la seconde, l'âme, elle retourne où ? Auprès du Créateur, auprès de Dieu, tout simplement. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Amen. C'est lui. Donc, on retourne au Créateur. La vie éternelle et le salut, eh bien, c'est de son vivant. Hein ? Et il rajoute, et c'est moi qui rajoute, que c'est pour aujourd'hui, C'est au moment où on écoute la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a mis en nous, eh bien, la pensée de l'éternité, la conscience. La conscience, le moyen d'apprécier ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne pouvons pas accepter, par exemple, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes passés de la mort à la vie, nous croyons en l'éternité. Nous croyons à la vie éternelle avec le Seigneur, nous croyons à la résurrection des morts. Si le Seigneur tarde, peut-être qu'il faudra que nous passions par la mort. Paul a dit qu'il était arrivé. C'est le lieu de l'arrivée. Et puis ensuite, il y aura la résurrection des morts, la venue du Seigneur, etc., etc. Alors voilà pourquoi Dieu a mis à nous cette pensée de l'éternité, cette conscience. Pour la mort et la vie, pardon, tout est une question de choix. Ça ne nous tombe pas comme ça dessus. Hein. Ah, j'ai rien demandé, puis il m'a sauvé. Non, j'étais mal. J'étais convaincu de péché, j'ai pleuré sur ma misère. Et j'ai réalisé ce que Dieu a fait pour moi. J'ai réalisé son sacrifice à la croix pour moi et à cause de moi. Ça m'a détruit. Mais j'ai réalisé une chose, c'est qu'il me donnait la vie. Il m'éclairait. Il a changé mes sentiments. Il a fait de moi une nouvelle créature. Quand je dis que tout est question de choix, Dieu dit dans sa parole, la Bible, Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Et j'ai mis devant toi la vie et la mort. » Ça date, hein, Deutéronome, hein, Israël. Hein. « La bénédiction et la malédiction. » Et là, écoutez bien, « Choisis la vie. » Si vous préférez autrement, « Choisis Jésus. » Parce que c'est le cadeau que Dieu nous a fait, hein, on arrive à Noël. Choisis donc Jésus afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Finalement, bien souvent on lève le poing contre Dieu, mais nous sommes les seuls responsables quant à notre vie présente et notre vie future. Amen. Nous sommes les seuls responsables. Amen. Ça nous regarde de nous. Ou j'accepte, je me remets en question, je me repens de mes péchés, ou alors, eh bien, je continue à vivre comme si j'avais rien entendu. Et comme on dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pas vrai? Alors pour certains, ça a duré des années jusqu'à ce qu'ils soient complètement dans l'impasse, coincés, plus moyen de faire demi-tour. Ah là là, il ne faut plus qu'une chose, c'est s'élever. Et comment s'élever? Eh bien déjà, en regardant à Jésus, en regardant à la croix, en se laissant, puisque la miséricorde c'est ça, hein, il envoie une corde vers nous, il nous voit dans la misère, on saisit la corde et lui nous sort de là. Amen. C'est ça, c'est un Dieu miséricordieux. Alors il est important de savoir qu'il y a deux sortes de morts physiques. On y va hein, ce soir, 2, 3, 2, 2, 3. Hein. Alors il y a la mort du pécheur, qui est une séparation dramatique, je dis bien, et définitive d'avec Dieu. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Eh oui! Et il se traîne vers le roi des épouvantements, comme le dit Job. Job en parle, hein, chapitre 18, verset 14. Cherche pas. Hein. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle des bénéfices de la mort de Jésus. Amen. Pour tous les êtres humains. Et il dit, entre autres, Hébreux chapitre 2, verset 14, « Par sa mort, Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans leur servitude. » Voilà l'avantage de la mort de Jésus. Déjà de la venue, ici-bas. Amen. Vous vous rendez compte que c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu vers nous. Imaginez que Dieu n'ait pas choisi ce mode pour venir vers nous. C'est-à-dire qu'il serait venu en tant que Dieu, vous savez, Dieu esprit, Dieu souverain, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu extraordinaire. Sa vie Sa vie, sa présence au milieu de nous aurait broyé toutes les vies. Il n'y aurait rien de vivant ici-bas. Pourquoi ? Parce que tout est corrompu. Nous sommes tous pécheurs. Pas un juste, pas même un seul. Heureusement qu'il est venu sous la forme d'un enfant. Amen. Il est venu comme cela. La mort du croyant, c'est un passage d'un état à un autre état. Déjà, nous avons ici-bas, avant la mort, accès à ce qu'on appelle la paix. Amen. Avant le repos éternel, il y a la paix. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Il n'est plus question pour nous, bien sûr, des rois, du roi des épouvantements. Pour l'enfant de Dieu, c'est fini. Les choses visibles, notre corps, sont des choses passagères, bien sûr. Et les choses invisibles, notre âme, a trait avec des choses éternelles. Amen, éternelles. C'est pourquoi Paul dit ceci dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Il y a un boum boum, vous n'entendez pas ? Hein ? Ah, il y a des feux d'artifice ? Oh, d'accord. Alors je reprends. Maintenant que je suis éclairé, je peux. Nous sommes donc toujours pleinement confiants, ou pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et là, nous serons dans la présence de la lumière véritable. Plus besoin d'EDF ou de, comment on appelle, les divers fournisseurs. Alors c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Être agréable au Seigneur, c'est pouvoir demeurer dans sa présence. Il nous dit d'Étienne plutôt le martyr, le premier martyr de la Bible, il va être lapidé. Actes chapitre 8, verset, je ne t'ai pas donné les références je crois, hein. C'est acte 8, non, je cherche pas. C'est chapitre 8, verset 55 et 60, une partie. Étienne, fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il, donc au pluriel, lapidait Étienne qui priait. Et après ces paroles, il s'endormit. Que disait Étienne ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a dit la même chose. Voyez un petit peu. Après ces paroles, qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'endormit. Et quand on arrive à la fin de notre vie, imaginez que vous avez donc certaines choses que Dieu a établies pour votre vie, et quand vous arrivez à la dernière chose effectuée, il dit maintenant c'est bon, c'est bien plutôt, bon et fidèle serviteur, viens me rejoindre, viens te reposer. Eh bien, c'est ça, il s'endormit. Amen, il s'endormit. Voilà. Alors, physiquement, on ne meurt qu'une fois. Comme le dit la parole de Dieu, hein, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, aucune place à la réincarnation. C'est la mention humaine. Aucune place au purgatoire. Vous avez compris ? Pas la peine d'aller banquer pour qu'on fasse certains actes pour vous. Non, c'est fini. Hein, on dit que ce serait une seconde chance. Mais non. Alors, notre âme, elle est éternelle. Le jugement est éternel. La mort est éternelle. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Dans les temps de soufre et dans les temps de feu. Amen. Apocalypse 14, verset 11, dit que la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc, la séparation d'avec Dieu, la mort sans Dieu, c'est bien un châtiment éternel. C'est bien un châtiment éternel. Alors, comment être délivré de la mort? Eh bien, par la réconciliation avec Dieu, et cela au travers de Jésus. Je reviens, Jésus, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Amen. C'est cet immense cadeau. Pour cela, eh bien, il faut reconnaître son œuvre accomplie à la croix. Il faut être vrai. C'est pas la faute à pas de chance, c'est pas la faute à celui que tu as mis à côté de moi ou celle que tu as mis à côté de moi. Il est infect, il est dur et je ne peux pas. Non, je ne pardonnerai pas. Oui, non, il faut reconnaître tout simplement et avouer nos fautes. Il faut demander pardon pour notre mauvais caractère, pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons fait. Amen. Il faut aller vers lui parce que lui, il a déjà fait le premier pas en venant sous une forme humaine. Amen. En venant dans le corps de Jésus. L'apôtre Paul dit ceci, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Il rajoute, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Nous vous en supplions. Voyez un petit peu l'approche de Paul. Il ne voulait pas que justement ce qu'il connaissait, ce qui était cher à son cœur, puisse basculer de l'autre côté et être perdu. Nous vous en supplions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire cela à quelqu'un? Je t'en supplie. Tourne les regards vers Jésus. Peut-être au dernier moment, tourne les regards vers Jésus. Lève les yeux vers lui. Adresse-toi à lui. Demande du pardon. Moi, ça m'est arrivé sur des lits d'hôpitaux de parler avec des personnes et dire, monsieur, je ne le connaissais pas, c'est la famille qui me demande de venir le visiter. Il s'était séparé de sa femme parce qu'elle était devenue chrétienne. Sa fille est devenue femme de pasteur. Et donc, il m'appelle, c'était en fin de journée, elle avait appris que son papa était donc était sur un lit d'hôpital. Et elle m'appelle en me disant, est-ce que tu peux passer le voir? Parce que je sais qu'il ne veut pas nous voir, nous. Il ne veut pas nous voir. Et d'après ce que m'ont dit le personnel médical, c'est la fin. On ne sait pas s'il va passer la nuit. Moi, je dis, écoute, je fais ma réunion parce que c'est trop tard, là, je peux payer l'avant. Je finis ma réunion, je sors de la réunion et je vais voir ton papa. Voilà. Et je suis passé à l'hôpital le voir. J'ai parlé avec lui. Et puis cet homme, au fur et à mesure, il a fondu. Il a fondu. Jusqu'à ce que je lui dise, écoutez, vous ne voulez pas demander pardon à Dieu pour votre vie passée, pour les colères que vous avez prises, votre femme, votre fille également. Et puis, il s'est mis à pleurer. Ce n'est pas un seul que j'ai vu comme ça, mais c'est plusieurs. On m'appelle de ce père de pasteur. Je vais le voir parce que sa femme me dit, écoute, on lui a trouvé un cancer. Je ne sais pas comment, il a un cancer des poumons. Elle me dit, je ne sais pas comment faire, elle me dit. Quand je lui dis que tu viens, il s'en va. Parce qu'il ne veut pas te voir, il ne veut pas te rencontrer. Et oui, c'est comme ça. Et je lui dis, écoutez, vous allez faire une chose. Elle s'appelle ma villa, comme moi. Je lui dis, vous allez faire une chose. Vous allez lui dire, tout simplement, quand je vais arriver, « Oh, Bernard !» « Oh, vous êtes venu me voir, c'est gentil !» Et vous allez faire comme ça. Hein, je l'ai fait également à Briançon et notre sœur aussi. Et là, je vois ces bonhommes qui étaient des durs, mais devant la maladie, dans la souffrance, fondre et se repentir. Parce que j'ai prié avec ces hommes-là, ils ont demandé pardon à Dieu. Et j'ai maintenant demandé à lui de venir dans votre cœur. Et puis il demande, Seigneur, viens, je te demande pardon, mais viens dans ma vie, sauve-moi, alléluia, parce qu'on est tous pareils, on fait les durs, pas de Dieu, non. Mais si, on a besoin de lui. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ailleurs, Paul dira ceci, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. C'est une grâce. Amen. Et dans cette même lettre, donc aux Romains, il exhorte des nouveaux convertis en leur disant, vous n'avait pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous les rassurez, ces nouveaux convertis. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Amen !» L'esprit rend lui-même témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est fait. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous avons reçu le plus beau des cadeaux. Alléluia. Le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. C'est le salut qu'il nous offre. Amen. Et oui, le salut n'est pas à venir, il est pour aujourd'hui. Celui qui croit au Fils, ben il a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Alors vivre dans la paix de Dieu, en marchant en règle avec Dieu, est la chose la plus merveilleuse qui soit. Il n'y a plus d'épée de Damoclès. On ne dit plus « aïe, 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 ça va tomber ». Non, non, c'est fini. Fini, il m'a pardonné. Il m'a lavé. Alléluia. Le plus est accompagné de nombreuses promesses que Dieu se fera un plaisir d'honorer. Amen. Celui qui travaille avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans les circonstances difficiles, mais dans les circonstances heureuses. Alléluia. Comme une fois, il m'arrive de n'être qu'un spectateur, alors qu'il a fallu mener un combat. Combat terrible. Et puis au moment où on dit, écoute Seigneur, occupe-toi de ce problème, de cette situation. Et puis tout d'un coup, pouf, oh, mais c'était pas compliqué. Eh oui, mais au début, j'ai voulu y arriver. J'ai du muscle, hein, voilà. Et puis je suis pas plus bête, hein. Non, je peux calculer moi aussi. Et puis au moment où j'ai tout laissé au pied de la croix, que j'ai tout laissé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu me laisses m'en occuper. C'est ça qu'il dit, si on pouvait l'entendre, mais c'est ça qu'il nous dirait. Hein. Eh oui. Alors, notre plus beau cadeau, c'est cela. Hein. C'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire à l'humanité. La venue ici-bas de Jésus, hein, Noël, la venue du Sauveur, hein, sauver des perdus, au milieu des perdus, pour justement eh bien, les sauver de la crainte, de la mort, du péché. Amen. Et c'est pour nous qui croyons l'assurance que Dieu s'occupe de nous. Amen. Il prend soin de ceux qui le craignent, de ceux qui lui font confiance pour le temps présent, mais également pour le futur. Alléluia. Tu as Jésus? Qui a Jésus? Qui a Jésus? T'es plus seul? T'es plus seul? Tu peux te trouver dans une foule où il n'y a pas un chrétien. Mais toi, tu es la lumière. Tu es la lumière. Je me rappelle ce jeune stagiaire qu'on avait à la caserne à Carpentras, j'ai dit à Grenelle, non, Carpentras. À Carpentras. Et ce jeune, le soir, il prenait pour la première fois une chambre dans la caserne, parce qu'on fait des gardes de 24 heures. Et là, il me dit je peux dormir dans ta chambre? Bon, je dis oui, oui, il y a de lits, oui, tu peux dormir dans ma chambre, oui. Parce qu'il me dit écoute, avec toi, je ne sais pas ce qu'il y a, mais on se sent bien. On se sent bien. Alors je me suis permis de lui parler, puis de lui dire écoute, tu vas venir dimanche, puisque tu es curieux, tu veux savoir, tu as envie de savoir. Ben, tu veux venir dimanche après-midi à 15h30, c'est avenue du camping. Alors j'ai plus le numéro en tête. 169 avenue Camping. Merci, mon épouse. Avant, c'était avenue Camping. Avant, maintenant, c'est plus. Il a changé le nom. Je l'ai pas retenu. Hein. Mais à l'époque, 169 avenue du Camping. Et puis moi, j'étais donc à la Réunion. J'avais fait le culte le matin. Puis l'après-midi, j'étais à la Réunion. Et tout d'un coup, je vois la porte qui s'ouvre. C'était lui. Il dit, viens, viens. Viens, on va devant. Viens tous les deux. Premier rang. Elle a fait en sortant, il me dit, je comprends pourquoi on est bien dans ta présence. Et c'est vrai que c'est super ce que tu vis. Vous voyez? Et nous, on s'imagine que, oh, faut avoir de la crainte, si je les blesse, si je les brûle. Non, non, ils ont besoin. Quand je dis à des personnes, écoutez, tout à l'heure, je le disais avant de partir avec Marie-Paul, je disais à un voisin qui a un cancer pancréas, je lui dis, écoute, Alain, on prie pour toi. Il m'a dit, ah oui, mais... J'ai dit, je suis pasteur. Tu sais, je t'ai dit, on prie pour toi. Voilà. Donc voilà, on vient de trouver un cancer. Il a un cancer également, il a des ramifications au niveau du coude. Vous voyez un petit peu ? Voilà. J'ai perdu 12 kilos et demi, il m'a dit. Voilà. Eh oui. Ben nous, on sait qu'on peut les adresser au Seigneur. Nous-mêmes, on peut s'adresser au Seigneur. Amen. C'est notre assurance. Il est avec nous tous les jours et ce, jusqu'à la fin du monde. Amen. On prend un temps pour prier, vous voulez bien ? Je vous donne une explication. Un jour, il y a un frère pasteur. Je vais pas le faire. Hein. Le dimanche, le matin en semaine, ils avaient une réunion tous les matins. Alors, je ne sais plus s'ils arrivaient à 6h ou 7h. Et puis, donc, ils avaient, je crois, une bonne heure de prière. Et puis après, chacun partait au boulot. Et puis, la plupart ne priaient pas. Mais ils venaient, ils assistaient, ils priaient dans leur tête. Mais après, ils repartaient. Et puis, un jour, c'est ce qu'il a fait. Il a attendu que le dernier soit rentré. Clac, clac. Et il a pris la clé. Il a dit, voilà, on partira quand tout le monde a prié. OK ? Puis ça a déclenché à partir de là, tous ont prié. Peut-être qu'ils avaient de la crainte, je ne sais pas, ils étaient fatigués. Puis là, ça les a réveillés, hein, croyez-moi. Hein. Oui, parce qu'il ne fallait pas arriver en retard au boulot, hein, quand même. On a un exemple à donner en tant qu'enfant de Dieu. Hein. Bon, allez. Quel privilège, Seigneur, de te connaître. Quel privilège d'avoir été réconcilié avec toi par le sang de la croix. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Tu as fait de nous, Seigneur, des héritiers de ton royaume. Et dans ce lieu, Seigneur, nous voulons confesser que tu es vivant au siècle des siècles. Que lorsque nous t'appartenons, nous n'avons pas peur de ce que le monde redoute. Nous savons où nous allons. Paul le disait lui-même, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la puissance, la capacité de garder mon dépôt. Amen. Jusqu'au jour de mon départ. Et je sais où il va m'emmener. Alors Seigneur, merci pour cette conviction que tu as mis en nous. Merci pour ta parole, parce qu'elle est puissante, elle est vivante. Merci de prendre soin de ton peuple, de ton église, en ce temps où il y a les retrouvailles familiales, que ce ne soit pas simplement pour des repas, mais Seigneur, que ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple, puisse, Seigneur, apporter un plus à ceux qui viennent se joindre à eux, Seigneur. Merci de bénir et de visiter nos malades, ceux qui sont en souffrance, tu les connais chacun en particulier. Madame Fernandez, Seigneur, tu la visites. Tu prends soin d'elle, Seigneur, là où elle est. Prends soin également de Claude, son épouse, Monique. Prends soin de deux, Seigneur, tous les deux. Dans leur âge avancé, mais également avec les maladies. Seigneur, mais tu es le Dieu de la vie, tu es souverain. Merci, parce que je sais une chose, c'est que tu ne permets pas une épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Et en même temps, Seigneur, tu as préparé la solution pour chacun. Merci de prendre soin d'Alain, Seigneur, à qui nous avons parlé tout à l'heure. Merci de visiter tous ceux et celles pour lesquels nous demandons grâce parmi nos familles, Seigneur, dans nos amis, dans ceux, Seigneur, que nous fréquentons. Seigneur, il y a des prières que je ne sais pas, mais toi, tu les connais parce qu'elles montent tout droit vers toi, Seigneur. Et je sais, Seigneur, qu'il y a l'engagement de tes enfants, il y a l'engagement de ton peuple. Merci de garder, Seigneur, ton serviteur, son épouse, de les garder, Seigneur, aussi en famille. Merci de prendre soin également de ceux qui sont chers à notre cœur et qui sont au loin, Seigneur. Merci de les visiter au nom de Jésus. Et à toi la gloire. Amen. Amen.